Sur Radio Grille Ouverte, vous écoutez Fréquence Buissonnière.
Bonjour, aujourd'hui les élèves de la 4e B du collège Marceau Lapierre de Saint-Jean-du-Gard vont animer pour vous une émission de radio sur le thème du journalisme. C'est Noah qui va commencer avec sa présentation des Illusions perdues de Xavier Giannoli en 2021. Ce film, adapté d'un roman de Balzac, a récolté 7 Césars, dont celui du meilleur film en 2022. Alors Noah, que raconte ce film ?
L'histoire est celle de Lucien de Rubempré, jeune poète idéaliste sans fortune en province au début du 19e siècle. Sa relation avec une femme mariée de la petite noblesse locale est l'occasion de monter à Paris où il y rencontre Lousteau, journaliste, qui deviendra son ami et son mentor. Grâce à lui, il pourra satisfaire ses ambitions et grâce à ses talents de critique, il entame une ascension au sein de la haute société parisienne. Mais ce système va se retourner contre lui. Ce film montre qu'avant, il y avait une bien plus grande liberté et qu'il n'y avait presque pas de règles pour exercer le métier de journaliste. Lousteau déclare dans le film qu'il a pour seul but d'enrichir les actionnaires et de s'en mettre plein les poches. Ce qui irrémédiablement débouchait à n'importe quoi, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la corruption et de la calomnie. Certains payaient des journaux pour faire l'éloge de leur création ou pour écrire un critique favorable à leur récit. Au contraire, d'autres pouvaient les payer pour détruire des créations ou leur faire une mauvaise publicité.
Constater que tous ces problèmes permettent de s'interroger sur les médias aujourd'hui. À qui appartiennent-ils? Quels sont leurs revenus? Aurélia, Wassila et Loïka vont nous donner quelques informations.
En France, il y a des médias publics et des médias privés. Les médias publics fonctionnent en partie avec de l'argent public, c'est-à-dire des subventions d'État. La République française contrôle à 100% France 1, 2, 3 et 4 et 5, collabore avec la République fédérale d'Allemagne pour Arte.
Mais il y a aussi de nombreux médias privés, c'est-à-dire qu'ils ont un propriétaire ou des actionnaires. Par exemple, Canal+ est possédé par Vincent Bolloré. Gulli, W9, M6 sont possédés par la famille Mon et TF1 est possédé par la famille Bouygues pour 68%.
Tout comme les réseaux, les chaînes de télévision se font des revenus grâce à la publicité et à l'abonnement. Ce qui peut rendre les médias fragiles par rapport aux marques. Par exemple, une marque pourrait décider de boycotter ceux qui la critiquent. Par exemple, si Nike ne collabore plus avec le journal, alors ça rapportera moins d'argent pour le journal.
On comprend bien que les médias et les journalistes sont soumis à des pressions importantes. Et pour éviter de faire n'importe quoi, la profession s'est dotée de règles de déontologie. Inès et Lola vont évoquer le sujet pour nous.
La déontologie, c'est l'ensemble des règles que les journalistes doivent respecter pour éviter les fausses informations et informer en gardant le respect envers les sources et les lecteurs. La déontologie sert aux journalistes à savoir ce qu'ils ont le droit de dire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire pour éviter de propager des rumeurs.
Dans le journalisme, certaines règles de la déontologie sont juste déclaratives et ne sont pas sanctionnées. En revanche, certaines peuvent mener les journalistes en prison, par exemple la diffamation ou le plagiat. Tous les devoirs de déontologie sont réunis dans la charte de Munich écrite en 1971 et certaines sociétés de presse y ajoutent leurs propres règles à usage interne.
Oui, par exemple l'AFP a une charte de ce type consultable sur son site. Mais qu'est-ce qu'est l'AFP ? C'est Raphaël et Loris qui vont nous l'expliquer.
L'agence France Presse est une agence de presse généraliste française chargée de collecter, vérifier, recouper et diffuser l'information sous une forme neutre, factuelle et utilisable directement par tout type de médias. Radio, télévision, presse écrite, site internet, ainsi qu'auprès de grandes entreprises et administrations. Elle est implantée dans environ 151 pays avec 201 bureaux et compte en 2020 plus de 20 000 salariés. Elle assure une couverture complète de l'actualité mondiale dans tous les domaines et sous toutes ses formes. Photographie, infographie, vidéo et texte dans 6 langues.
L'ancêtre de l'AFP a été fondé par Charles-Louis Havas en plein 19e siècle. L'agence telle qu'on la connaît aujourd'hui a été fondée le 20 août 1944 par une dépêche clandestine annonçant la future libération de Paris et sa naissance en tant qu'organe de presse libre. L'AFP est donc dès ses débuts le témoin constant de l'histoire et l'actualité française et internationale.
L'AFP est donc comme un grossiste en information et pour satisfaire tous ses clients, elle a aussi développé un service spécifique de fact-checking.
Le fact-checking sert à vérifier les informations, à se demander si c'est vraiment possible, à enquêter avec le projet de relever les erreurs, détruire les fake news, à vérifier les propos politiques qui influent dans le débat public.
Cette notion est apparue aux États-Unis dans les années 1920 sous l'appellation de fact-checking. Des logiciels aident les particuliers à vérifier les faits. Depuis 2016, les informations sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, etc., sont vérifiées car il y a beaucoup d'informations mensongères. La vérification des faits s'applique donc sur les contenus journalistiques, avant et après publication.
On comprend bien pourquoi la vérification des sources et la vérification des contenus sont importants pour les citoyens et est une information fiable. Pourtant, toutes les informations ne sont pas reliées exactement de la même façon. Et certains journalistes sont vraiment engagés, n'est-ce pas contradictoire? Simon, Juliette et Mathéo vont nous parler sur ce sujet.
Qu'est-ce que l'objectivité journalistique?
L'objectivité journalistique consiste à rapporter les faits de façon juste et équitable, sans avantager un point de vue d'un autre. Pour un sujet donné, un journaliste a donc le mandat de présenter les deux côtés.
Pourquoi viser toujours l'objectivité?
Il faut présenter une diversité de points de vue pour bien cerner les enjeux. L'objectivité a comme utilité de bien informer le public. Devant la multiplication des points de vue, l'objectivité est maintenant plus difficile à atteindre. Les journalistes ont parfois la tâche de devoir aller au-delà des déclarations. Ce qui a changé la donne, c'est l'apparition des réseaux sociaux. Mais les journalistes essayent d'être au-dessus de tout ça. Tous les points de vue ne sont pas égaux. Parfois, il faut même sacrifier une partie de l'objectivité au public. En conclusion, l'objectivité journalistique est une notion parfois floue. Si ses principes de base sont simples, rapporter différents points de vue et vérifier les faits pour aider à la compréhension d'enjeux, son application est souvent complexe. Voilà pourquoi l'objectivité est sans doute le pire aspect du journalisme, mais aussi son meilleur côté.
Qu'est-ce que la neutralité journalistique ?
La neutralité journalistique consiste pour les journalistes à ne pas prendre position dans les contenus qu'ils produisent.
Comment la neutralité journalistique peut marcher?
Pour que la neutralité journalistique puisse fonctionner, les journalistes mettent au point des stratégies, comme en accordant par exemple le même temps de parole aux deux thèses adverses, ou encore en posant des questions pièges à chacun des partis.
Est-ce que la neutralité journalistique est facile à respecter? Alors non, les journalistes doivent toujours se méfier.
En fait, c'est impossible de rester parfaitement neutre, car deux personnes différentes ne feront jamais la même interview.
Merci à Juliette, Mathéo et Simon.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Prends garde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi. Prends garde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats.
Oh! entendre Carmen, interprétée par l'artiste belge Stromae. Et vous êtes toujours sur le 88.2 dans Fréquence Buissonnière avec les élèves de la 4e B du collège Marceau-Lapierre à Saint-Jean-du-Gard. Ils présentent une émission sur le journalisme.
Maintenant, nous allons parler de trois reporters héroïques. Nous allons commencer par Albert Londres, que Nayam et Mathias vont nous présenter.
Né en 1884 à Vichy, Albert Londres commence sa carrière de journaliste au Matin en 1906 à Paris. En 1914, il entre au Petit Journal dans lequel il va publier de nombreux reportages avant de rejoindre un nouveau journal qu'il envoie au URSS. En 1923, il entreprend une enquête sensible sur le bagne de Cayenne qu'il publie dans le Petit Parisien. Elle aura un tel retentissement qu'elle aboutira à la fermeture du pénitencier de Saint-Laurent du Maroni. Un autre témoignage lié à l'épouvante de ce bagne lui est alors fourni par Dieudonné, un bagnard en cavale au Brésil, que le reporter ramènera avec lui en France et dont il obtiendra finalement la réhabilitation après le bagne civil de Cayenne, le journaliste va régler son compte au bagne militaire, dont il dénonce une fois encore avec véhémence les abus. Après une longue polémique avec les autorités, encore, tous les pénitenciers militaires sont abolis.
C'est en rentrant de Shanghai en 1932, où il est allé enquêter sur les triades chinoises, l'opium et les réseaux de trafiquants, et d'où avait-il câblé, il ramenait de la dynamite, qu'Albert Londres trouva la mort dans l'incendie du paquebot Georges Philippard en mer Rouge.
Merci à Mathias et Nayam. Maintenant, je vais donner la parole à Curtis et Sean qui vont nous parler de Robert Capa.
Robert Capa, né le 22 octobre 1913 sous le nom de Ernő Friedman, est un photographe hongrois considéré comme le père du photojournalisme. Dès l'âge de 18 ans, il quitte la Hongrie pour chercher du travail en Allemagne. On est alors dans les années 30, en plein nazisme. Né de parents juifs, il préfère prendre un surnom et devient Robert Capa.
Il reste surtout connu pour avoir couvert 5 guerres durant sa vie. Entre 1936 et 1939, Capa travaille en tant que photographe en Espagne durant la guerre civile espagnole. Durant les décennies suivantes, il couvre la guerre sino-japonaise, la Seconde Guerre mondiale et la guerre israélo-arabe de 1948 et enfin la guerre d'Indochine. Son image de la guerre la plus célèbre est sans doute The Magnificent et l'event prise le jour du débarquement à Omaha Beach. Capa voyage également en Union soviétique avec l'écrivain américain John Steinbeck. Ses photos sont publiées dans le livre de Steinbeck intitulé A Russian Journal. En 1947, Capa cofonde Magnum Photo à Paris avec Seymour, Henri Cartier-Bresson et Georges Roger.
Dans les années 1950, Capa est envoyé en mission en Indochine, en Asie du Sud-Est pour le magazine Life. Il est tué par une mine antipersonnelle après être sorti de sa Jeep pour prendre une photographie le 25 mai 1954.
Merci à vous. Maintenant, nous allons parler de Florence Obona que Virgile et Romain vont nous présenter.
Florence Obona est née le 6 février 1961 à Excel en Belgique. Elle a suivi sa formation de journaliste à l'Université de Paris. C'est une journaliste reconnue comme reporter de guerre et écrivaine française. Grand reporter, édition Bayard, 2009.
Elle exerce son métier de journaliste depuis 1984. Florence Obona effectue la plus grande partie de sa carrière au sein du quotidien Libération comme grande reporter. Jusqu'à son départ en 2006 pour l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur puis Le Monde à partir de 2012 où elle couvre le conflit syrien en tant qu'envoyée spéciale. Lors de son voyage en Syrie pour un reportage sur le conflit syrien, un internaute lui pose la question « Est-ce que vous vous sentiez menacée en tant que femme lorsque vous suiviez les combats en Syrie ?»
Elle a répondu « Pas du tout ». En général, être une femme sur un lieu de combat m'a plutôt semblé un avantage. Les Syriens étaient là pour l'aider quand elle en avait besoin et savaient la recevoir, sachant qu'elle a été prise en otage pendant 5 mois en Irak.
Elle s'investissait aussi en France. Le Quai de Ouistreham, l'un des livres écrits par Florence Obona, qui a connu dernièrement un grand succès sur les conditions de travail des femmes de ménage précaires.
Les quatrièmes du collège de Saint-Jean-du-Gard reviennent pour la dernière partie de cette émission, juste après ce morceau d'Angèle intitulé « Amour, haine et danger ».
Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, l'étanger. Et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire
Parquer tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous.
Bah ouais, c'est vrai ça.
Moi j'ai besoin de checker 1000 fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Le vide, tu regardes 5 minutes. 2 heures plus tard, tes mains transpirent et t'as les yeux qui brûlent. T'as rencontré un tas d'amis que t'as jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on donne tous notre avis, surtout aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai? T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait, ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi, tu zones des heures sans rien faire d'ailleurs. L'écran, et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour et danger. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Tu peux pas t'en empêcher. Dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire. Je crois que je veux juste qu'on m'écoute. C'est pas ma faute, je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous t'avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour, haine et danger, dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. On peut pas s'en empêcher, dans un objet.
Aujourd'hui, on voit bien encore que les journalistes prennent des risques. Par exemple, Reporters sans frontières. Curtis va nous parler sur ce sujet.
Reporters sans frontières est une organisation non gouvernementale internationale fondée en 1985, reconnue d'utilité publique en France et présente en 2020 dans 14 pays. Elle se donne pour objectif la défense de la liberté de la presse et la protection des journalistes. Leur mission, agir pour la liberté, le pluralisme et l'indépendance du journalisme. Défendre celles et ceux qui incarnent ces idéaux. Pour changer durablement les choses, RSF mène un travail de fond auprès des gouvernements et institutions. Il propose des solutions concrètes et lance des initiatives internationales. RSF est sur le terrain pour assister les journalistes en danger, partout et à tout moment.
Merci. Mais on peut aussi faire ce métier si on n'a pas envie de courir sur les théâtres de guerre. Je donne la parole à Caïs et Wassim qui vont faire une interview d'une journaliste.
Je m'appelle Jessica Pivert et je suis journaliste en alternance chez Radio Grille Ouverte.
Comment êtes-vous devenue journaliste ?
Alors, je le suis encore qu'à moitié, étant donné que je suis étudiante en journalisme. J'ai juste postulé dans une école de journalisme qui s'appelle l'ESJ Pro et qui est à Montpellier. Et donc, c'est pas tout à fait un concours, mais c'est quand même des examens, on va dire. Et donc, j'ai fait ces examens. J'ai trouvé une radio qui voulait bien me prendre comme apprenti ou donc, si vous préférez, comme stagiaire. Depuis un an et demi, je travaille chez Radio Grille Ouverte à Alès. Et j'ai 24 ans. Je sais pas si c'est utile de le préciser, mais...
Vous parlez de quoi dans la radio ?
À la radio, on parle de différents sujets. En fait, Radio Grille Ouverte, c'est une radio associative. Donc, une radio associative, c'est une radio qui a... Donc, ça, c'est les termes très... c'est la définition, on va dire, de base. C'est qu'on a une mission de communication locale de proximité. Donc, en fait, ça veut dire qu'on va parler de tout ce qui se passe à Alès et autour, donc sur toute l'agglomération d'Alès, autant des sujets culturels que des sujets, je sais pas, sportifs, pourquoi pas aussi un peu politiques, même si c'est ça, on le fait un petit peu moins. On va parler aussi des événements qu'il peut y avoir autour, on a notamment un agenda où on va vous dire ce qui se passe par exemple ce week-end, ce genre de choses.
Depuis quand ?
Depuis quand je suis journaliste ? Ouais. Depuis un an et demi, du coup.
Quelle a été votre motivation dans la radio ?
Alors, la radio, c'était un peu compliqué parce qu'à la base, comme beaucoup d'entre vous, moi, je parlais très doucement avec une toute petite voix et j'étais pas très à l'aise à l'oral. Et puis, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un volontariat en service civique. Donc, c'est quand on est jeune et qu'on travaille pour aider une association ou une structure, quelle qu'elle soit, pour une mission particulière. Donc là, j'étais en fait avec une association sur toute la région qui travaille avec toutes les radios associatives donc de l'Occitanie. Et c'est là que j'ai découvert un peu plus le monde de la radio et que je me suis dit, bah, pourquoi pas. J'ai trouvé que c'était peut-être aussi une manière de me dépasser un peu, et j'ai vu ça un peu comme un challenge. Et le journalisme, c'était toujours quelque chose qui m'avait intéressée parce que j'ai toujours bien aimé écrire et que c'était un domaine, ouais, qui me parlait bien. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas le journalisme radio.
C'était Fréquence Buissonnière avec le collège Marceau-Lapierre de Saint-Jean-du-Gard sur Radio Grille Ouverte.